Audiolib présente La mort en miroir de Petronille Rostagna, lu par Estelle Dehon. À ma famille, mon point d'ancrage dans chaque tempête. Il est facile de perdre la mémoire de soi-même. Henrik Ibsen. Ce qui compte, c'est ce qui est inscrit non sur les papiers d'identité d'un homme, mais dans son cœur. Henri Troya. Prologue. Lundi 2 décembre 2024, 8h30. Le ciel au-dessus de Paris était d'un gris uniforme, véritable voile de suie étendue sur la ville. La pluie, fine mais persistante, tombait sans relâche depuis des jours, noyant la capitale sous une nappe froide. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux sombres, parapluies déployés, avançaient tels des ombres, leurs pas se fondant dans le grondement des voitures qui roulaient au ralenti. Bertrand Timonier longeait les berges, le visage enfoui dans son écharpe. Ses chaussures frappaient le pavé dans un bruit sourd et régulier, suivant une cadence qui semblait vouloir respecter malgré le tourbillon de pensées qui l'assaillait. Un mois qu'il tentait de reprendre pied après avoir laissé derrière lui tout un pan de sa vie. Ses mains, dans les poches de son manteau, serrèrent une paire de gants en latex qu'il avait pris l'habitude de transporter dans son quotidien de médecin légiste. Ces gants lui rappelaient sa place dans ce monde qu'il peinait à appréhender à nouveau. Son métier était tout ce qui lui restait. Il lui prodiguait une identité, dernière bouée de secours dans le marasme de son existence. La Seine, en contrebas du quai de la Râpée, était noire et déchaînée sous cette pluie sans fin. Les bâtiments qui bordaient le fleuve semblaient l'observer, indifférents à son état. Un poids invisible l'accompagnait, aussi pesant qu'une enclume. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Un accident de la route aux raisons inconnues. Puis le trou noir. À son réveil, il avait oublié qui il était. Bertrand Timonier, médecin légiste. Mais aussi Marie, père. Homme avec des souvenirs, des histoires, des repères personnels. Toute sa mémoire avait été balayée d'un revers de main. Seules ses connaissances médicales n'avaient pas disparu, à croire qu'elles formaient une carapace autour de son esprit dévasté. Pour le reste, son passé, son identité, la personne qu'il avait été avant l'accident, tout s'était effacé. Bertrand ne savait plus ce que c'était de se souvenir. La mémoire lui paraissait être un pays étranger, un territoire qu'il avait traversé sans en comprendre la langue. Rien ne se rappelait à lui. Pas un regard, pas une voix, pas même la sensation d'une caresse sur la peau. Le vide le dévorait tout entier. La silhouette imposante de l'Institut médico-légal se profila au bout de la rue. Bertrand se figea un instant. Ses yeux se posèrent sur les grandes portes en bois qui semblaient l'attendre. Il inspira profondément. La pluie devint plus forte autour de lui, répercutant son vacarme dans son crâne. Il parcourut les derniers mètres, monta le perron, puis poussa d'un geste ferme les deux battants de l'entrée. À l'intérieur, l'odeur caractéristique des lieux où l'on dissèque les secrets du corps humain s'empara de lui, sensation presque réconfortante. Dans les vestiaires, il enfila une blouse, retira ses chaussures pour les échanger contre des crocs, se couvrit la tête d'une charlotte en papier et le visage d'un masque chirurgical. Sur le tableau Velleda, il parcourut le programme des réjouissances qui l'attendaient pour les heures à venir. 4 autopsies dont la première intervention se résumait en une ligne. Homme de type caucasien, balle dans la tête, salle 2, 8h45. La direction le ménageait. Ses confrères tournaient entre 6 et 9 examens médico-légaux par jour. Vu son état, son emploi du temps se trouvait allégé. Son neurologue ne s'était pas opposé à la reprise de son activité professionnelle. Il avait fallu batailler avec la direction de l'Institut, qui avait fini par céder après que Bertrand eut réalisé avec succès une autopsie sous l'œil agréable.